Ça pour une nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Bienvenue dans Bonne Nouvelle, l'émission des solutions locales en Haute-Vallée de l'Aude. Vous écoutez Radio Balade 101.8 et justement, aujourd'hui, on vous emmène en balade. On va arpenter les sentiers à la découverte des plantes qui nourrissent et qui guérissent. Je suis avec Laurie Beaufils, ethnobotaniste et animatrice nature. Bonjour Laurie.
Bonjour Aurélia.
Et nous sommes à l'Athlé-Bains, où tu habites et où tu organises la plupart de tes promenades gourmandes. Et on va commencer par ça. On va commencer par emboîter le pas de notre guide sur les petits chemins.
Voilà, alors là, il y en a partout, en fait. Tu vois, on retrouve la mâche. On retrouve des petites laitues sauvages, l'ancêtre de la laitue cultivée.
Donc là, on est encore dans le village. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous comme plantes comestibles ?
Alors, on en a une là, celle-ci. Les plantes sauvages comestibles commencent à intéresser beaucoup de monde. Et celle-ci, elle est servie dans les restaurants parisiens. C'est la porcelle enracinée. Et on la mange avec des lardons, un peu comme on fait avec les pissenlits, par exemple, tu vois. Alors, bien sûr, on a des pissenlits partout. Alors, tout le monde les connaît, mais tout le monde ne connaît pas les propriétés médicinales du pissenlit, parce que tout se mange dans le pissenlit. Et c'est vraiment un alicament, c'est-à-dire que c'est un aliment qui va en même temps soigner le corps grâce à l'amertume qu'il y a dedans. Donc ça va faire un drainage du foie. Et donc tu peux manger les feuilles, tout simplement en salade, mais tu peux manger aussi les racines et les fleurs. Ah oui, alors celle-ci, elle est très intéressante, je l'aime beaucoup. Alors c'est une plante qui est dite envahissante. Elle va monter, elle va faire une très grande tige hein, sur à peu près 1 mètre de hauteur et des toutes petites fleurs. Si on touche, hein, on sent que c'est tout doux, c'est comme du velours. Hein. En botanique, il faut utiliser tous les sens. Il faut utiliser la vue, l'odorat, le goût. Et donc on se souvient beaucoup mieux des plantes si on les touche, si on les goûte. Donc elle est très agréable au toucher. Alors, c'est une petite plante qui s'appelle la vergerette du Canada, qui est très intéressante en cuisine sauvage. J'utilise beaucoup, j'utilise les feuilles. Je hache comme du persil, je mélange avec du fromage blanc. Et ça, c'est un succès d'année de poivre, voire de piment quelquefois. Ça dépend des exemplaires. Il y a des exemplaires qui sont très chargés, très très piquants. Et donc c'est vraiment une plante très agréable. Elle est forte, mais moi j'aime bien. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'œil. Au début, on se dit, mais on voit rien quoi. Et puis là, si on regarde bien, on distingue quand même que celle-ci là, est en rosette, donc avec les feuilles étalées au sol. Elle n'a pas la même couleur que les autres. Alors, je vais en prendre une feuille. Et là, pareil, il faut toucher. C'est un toucher un peu caoutchouteux. Elle est très souple. Mais elle est croquante et moi j'adore ce goût. C'est vraiment excellent. Alors, il y en a tout le long. Tout le long du talus, il y en a. Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est super bon. J'aime beaucoup, ouais.
Mais elle croque en plus sous la dent. Donc celle-ci, c'est la... Alors, le nom local, c'est la cousteline. Et le nom scientifique, c'est la Richardie, Richardia picroides, la Richardie picroïde. En général, il faut connaître plusieurs noms en botanique. Il faut connaître quand même le nom scientifique. C'est quand même très important de savoir de ce qu'on mange et de quoi on parle. Donc c'est important d'avoir les deux noms. Et puis bon, si on a des noms locaux en plus ou des noms français, c'est très bien. Alors, c'est la saison des asperges sauvages. Donc tu vois, il y en a un petit peu partout. Moi, celles-ci, elles sont petites, mais... Oh, regarde, tu vois, il y en a là. Alors, manger des plantes sauvages, c'est une chose. Après, finalement, c'est du bon temps que tu passes dans la nature. Ça te relie à la nature, finalement. Et puis, l'agriculture, ça existe depuis 10 000 ans, hein, L'humain, il a survécu grâce aux plantes sauvages jusque-là. Alors celle-ci, tu vois, elle passe un peu inaperçue. Alors, c'est une feuille plutôt ovale avec un long pétiole. Bah, là-dessous, on va racine. On va tirer la racine. Non, c'est pas toujours facile d'avoir les racines. Voilà. Donc, tu vois, on extrait une espèce de petite carotte blanche qui est très bonne à manger. Mmh. Ça, cette plante, c'est une campanule. C'est la campanule réponse. Tu vois ? Alors, elle est très jolie. Elle est facile à reconnaître quand elle est en fleur. Hein, beaucoup moins quand elle est en rosette. Mais elle va monter à peu près sur 40-50 cm. Elle va faire des clochettes bleues. D'où son nom, campanule, hein, ça vient de campana, ouais. les clochettes. Donc quand elle est en fleur, elle est facile à repérer. Alors ce qu'il faut faire, c'est que quand on en voit en fleur, ben, on repère l'endroit où elle est, et puis on vient cette saison-là pour chercher les racines. Et c'est très bon. Tu veux goûter quand même s'il y a un peu de sable?
Bien sûr.
Allez, on partage.
Merci.
Alors, tu peux la manger crue ou tu peux la manger cuite. Il y a une petite peau dessus, tu vois, qui s'enlève très bien d'ailleurs.
Ouais.
C'est très doux en fait. Tiens, si tu veux le reste.
Mmh. Allez, on trouve une dernière plante.
Ouais. Là, on va rendre un hommage à Vénus. Alors, il y a beaucoup de noms en botanique hein, qui parlent de Vénus. Il y a le sabot de Vénus, il y a le peigne de Vénus, il y a beaucoup. Et là, on va voir, ben tiens, ils sont là, les petits nombrils de Vénus, hein, tout ronds, donc Ambilicum rupestris. Et donc, c'est une plante qui va pousser sur les murailles, sur les vieux murs. Je fais des toasts avec. Je m'en sers en fait comme support. Je fais des fromages blancs, ben, par exemple, avec de la vergerate du Canada. Et puis, je me sers de ce petit rond, là, pour mettre une petite cuillère de fromage parfumé aux herbes sauvages. Puis, je rajoute des pétales par-dessus. Ça fait un super apéro sauvage. C'est très joli. Voilà, alors là, il y en a plein d'autres. Hein. On est dans des sous-bois, donc on change de milieu. Tu as notamment la benoîte urbaine. Quand on tire la racine de la benoîte urbaine et qu'on gratte un peu, ça sent le clou de girofle. Mmh. On pourrait passer la journée, là.
On a déjà hâte de déguster tout ça. Alors, un premier constat qui saute aux yeux, Laurie, il y a énormément de diversité de plantes sauvages comestibles, même en tout début de printemps et même au bout de ta rue.
Oui, il suffit de sortir de sa maison et je pense que déjà sur les 3 mètres qui sont devant le pas de porte, on peut trouver une dizaine d'espèces comestibles et médicinales. Actuellement, là, ça regorge de petites plantes qui commencent à fleurir et puis d'autres qui restent en rosette qu'on va pouvoir consommer comme on fait avec les pissenlits.
Tu recenses combien, là, par exemple, de plantes sauvages dans un rayon de 300 mètres de chez toi, de plantes dont tu peux faire un usage médicinal ou alimentaire ?
Moi, je dirais qu'il y a une trentaine d'espèces, là, directement ici, autour de la maison, dans les chemins, en fait, sur les bords des chemins, oui.
Et aussi énormément dans la rue, dans des interstices de pelouse entre les murs et le bitume, dans des petits coins qu'on ne soupçonne pas forcément aussi habités que ça.
C'est vrai, oui. On trouve, par exemple, la pariétaire, hein, dont on a parlé, qui est une plante qui va se mettre dans les petites infractuosités de rochers et qui, avec ses racines, va envoyer des acides qui vont dissoudre les minéraux dont elle va se nourrir. Et c'est une plante qui est alimentaire et qui est aussi médicinale. On peut l'utiliser comme de l'ortie. Et c'est vrai qu'il y en a partout, hein, on se promène, il y en a absolument partout, il faut juste faire attention à l'endroit où on va l'accueillir.
En tout cas, merci pour la promenade, Laurie. On va continuer à parler de ces plantes comestibles et médicinales en Haute-Vallée de l'Aude, en compagnie de toi, mais juste après une autre balade musicale, celle-là. We are low. We are. We all know it's a long way from home.
On trace notre chemin, on part comme si de rien, on est sauvage.
On casse nos habitudes, on s'habitue à la solitude.
On est sauvage. Le froid emmêle nos corps, on est sauvage.
On dépasse nos limites, on a ce que l'on mérite.
On est sauvage. Changer et se laisser porter et se laisser porter et se laisser porter et se laisser porter. Ah oh, 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 oh.
On vient d'écouter Bon Air avec le morceau Sauvage. Et justement, aujourd'hui, on l'apprivoise, le sauvage. Vous êtes toujours sur Radio Balade et dans Bonne Nouvelle, on découvre que l'on est entouré de nourriture et de médicaments gratuits. Nous sommes avec Laurie Beaufils, animatrice nature qui organise des ateliers et des stages de découverte de ces plantes sauvages, comestibles et médicinales. On l'a vu lors de notre promenade tout à l'heure, ces plantes sont nombreuses et elles sont partout. Alors déjà, pour commencer, Laurie, à quoi ça sert de les connaître, ces plantes ?
Alors ça sert, je dirais, à... Déjà, rentrer en contact avec notre environnement, dont on est quand même largement coupé, avec nos méthodes de vie sédentaires et un peu speed. Donc, ça nous permet de prendre le temps de sortir, de profiter du soleil, des oiseaux qui chantent, et puis de regarder un peu ce qu'il y a directement à côté de chez nous. Ça, c'est déjà un gros avantage. Je dirais que l'autre avantage que je vois, c'est l'autonomie qu'on va gagner. C'est une autonomie qu'on a perdue, qu'on avait, il n'y a pas très longtemps. Si on remonte deux générations en arrière, les anciens avaient l'habitude d'aller cueillir des herbes pour la soupe, ou pour aller guérir une toux, ou guérir des animaux, hein, c'était courant. Et donc on a perdu cette autonomie, et c'est vraiment dommage d'aller voir le docteur pour des enrouements ou des petites blessures. On peut tout à fait guérir des bobos au quotidien avec les plantes qu'il y a autour de nous. Il ne faut juste pas se tromper, il faut apprendre à les connaître. Ça demande du temps, de la patience et un peu de rigueur, mais ça vient assez vite. Après, moi, ce que je conseille, c'est d'écrire des cercles autour de chez soi. Alors, je dirais, on va commencer par 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, et puis on agrandit son territoire. Et l'idée, c'est de voir les plantes toute l'année. Parce que là, je t'ai montré des rosettes de plantes. Je te remontre les mêmes dans un mois. Elles ont changé, la forme des feuilles a changé, elles ont complètement changé de morphologie. Donc, il faut être capable de reconnaître la plante à tous les stades. Donc au début, au printemps, quand elles sont au stade de rosette, et c'est souvent là qu'on va les consommer en salade sauvage, et puis après, sous forme de fleurs, ça va permettre, quand on les voit dans la nature, de dire, tiens, ben là, il y a des campanules réponses, ou il y a autre chose, je vais revenir au printemps chercher la racine, ou à l'automne.
Il y a une diversité aussi de matières, de textures, de goûts, de couleurs, qui est très impressionnante.
Oui, tout à fait. C'est aussi une rééducation du palais, hein, qui est quand même maintenant sur des saveurs très limitées, beaucoup de sucré, beaucoup de salé. On met de plus en plus de sel dans l'alimentation. Et c'est vrai que les enfants se développent avec un palais. La palette, finalement, des saveurs se rétrécit. Et ça, c'est aussi une façon d'agrandir cette palette. Hein. C'est un peu comme des palettes de couleurs. On va trouver des saveurs acidulées, des saveurs douces, d'autres saveurs plus insignifiantes, mais... Voilà, c'est aussi un des intérêts de la cueillette sauvage, c'est d'éduquer le palais et aussi à l'amertume qu'on a perdue. Hein. Les anciens avaient vraiment beaucoup l'habitude de l'amertume.
Et ces plantes, on les trouve vraiment partout. Hein. On en a vu tout à l'heure sur des murets, au pied des murs, sur des parkings. Mais j'imagine qu'on ne peut pas ramasser ces plantes dans tous les contextes non plus. Je pense justement au bord des routes, aux endroits où les gens vont emmener promener leurs chiens, ou le long des cultures empoisonnées, comme les vignes conventionnelles qu'on a pas mal ici.
Voilà, il faut choisir des endroits qui sont exempts de pollution, et comme tu dis, surtout pas près des vignes traitées, des cultures traitées, ce qui pose des problèmes dans certaines régions, parce qu'ici on a la chance d'avoir des endroits quand même assez sauvages, mais si on va dans le Lauragais, j'ai des stagiaires qui quelquefois me disent « mais on ne peut pas cueillir dans le Lauragais, il y a des cultures partout ».
Tu as une distance de sécurité à partir des routes que tu commences à appliquer. Voilà, à partir de 10 mètres d'une route, tu commences à te dire que tu peux cueillir pour manger. Tu as des petits trucs comme ça pour être sûr d'avoir une alimentation sauvage qui est en même temps pas polluée.
Non, 10 mètres, c'est pas suffisant. Si tu prends la route qu'il y a là-bas où il y a 5000 voitures qui passent par jour, 10 mètres, c'est pas suffisant. Il faut vraiment s'écarter des réseaux routiers. Et en plus, c'est quand même beaucoup plus agréable de se promener loin des réseaux routiers. On n'entend pas les voitures et la nature peut s'exprimer tranquillement.
Oui, il y avait ça aussi dans la balade tout à l'heure, c'est-à-dire le plaisir aussi de sortir du village, d'aller au contact de la nature, qui finalement est très proche et qui est assez accessible, surtout dans notre département. On a beaucoup de milieux différents qui sont très accessibles.
Oui, tout à fait. Oui, on a la chance quand même de sortir rapidement des villages. Mais quand il y avait le confinement, c'est vrai qu'on n'en a pas trop souffert parce qu'on avait quoi, 1 kilomètre. C'est extraordinaire ce qu'on a tout autour. Là, sur Alette-les-Bains, on a toute une zone là-bas en face de une zone calcaire dans laquelle donc, il y a des plantes de garrigue. De l'autre côté, on a une zone acide, zone à châtaignier, on va trouver des plantes de milieu acide. C'est des plantes totalement différentes. On va trouver des plantes de bord de rivière, qui sont des plantes encore vraiment très particulières. Et puis, ce que l'on a vu tout à l'heure, les plantes dites rudérales, qui vont pousser sur les bords de chemin. On a vraiment des grands milieux très différents, et selon l'altitude aussi. Hein. Ici, on a, au niveau de l'Aude, on est assez bas, mais si on monte sur les plateaux là-haut, on est à 800 mètres. Donc, on commence à avoir des plantes très différentes qu'on va trouver autour des pâturages.
Et donc, tu utilises aussi cette diversité de paysages pour tes ateliers, puisque tu emmènes tes stagiaires dans différents biotopes pour leur montrer aussi les plantes endémiques de tel ou de tel type de végétation, d'exposition ou d'altitude.
Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de découvrir les plantes dans leur milieu naturel. Elles ne poussent pas n'importe où. Elles sont inféodées à des paramètres physico-chimiques, d'ensoleillement également. Donc on ne va pas trouver une plante forestière au bord de la rivière ou sur un bord de fossé. Donc c'est un critère d'identification qui est important, de savoir où on va les trouver. Et voilà, mon idée c'est ça, c'est d'aller dans un milieu naturel et de voir qu'est-ce qu'on y trouve, quel cortège de plantes on va trouver. Et ça va donner un critère. Si on trouve une plante qui est normalement en milieu forestier, en garrigue, c'est qu'on s'est trompé d'identification, quoi. Il y a un problème.
C'est quoi la grande période pendant laquelle on est sûr de trouver de quoi se rassasier dans la nature ?
Mais je dirais que là, à partir de mi-février, fin février, ça commence à être vraiment l'abondance. On va trouver toutes les plantes en rosette, comme on a vu la cousteline, les laitues pérennes qui poussent dans des milieux caillouteux de garrigues, qui sont excellentes, qui sont des laitues vivaces qu'on retrouve d'une année sur l'autre. Si on prend le soin de ne cueillir que quelques feuilles par rosette et pas les déraciner, bien sûr, il faut préserver la ressource. Mais voilà, ça c'est la période où on va prendre les salades sauvages, les pissenlits, que tout le monde connaît, les salsifis sauvages, il y en a plein ici. Les poireaux sauvages, il y en a plein aussi. Donc là, c'est vrai que ça commence à être l'abondance. On va avoir l'ail des ours qui va apparaître bientôt, souvent au bord des rivières, dans des endroits frais. Mais au fond, finalement, toute l'année, on peut faire de la cueillette sauvage. Après, on a les fleurs, on peut mettre les fleurs dans la salade. Et à l'automne, on a les racines. On a également les plantes médicinales, on n'en a pas trop parlé, mais au mois de mai, on va aller cueillir le thym en fleurs pour se faire une tisane de thym. Quand on a mal à la gorge, c'est pas grand-chose, on risque pas de se tromper. Tout le monde, je pense, sait reconnaître le thym, et du romarin en fleurs, on en a aussi. Donc ça, c'est des plantes que tout le monde peut cueillir et justement s'en servir pour se soigner sur des petites choses. Pas grave, je dis pas de pas aller voir le médecin, bien sûr.
Alors, ces balades que tu organises, c'est aussi parfois l'occasion de partager des recettes, de créer de la convivialité, puisque tu enchaînes parfois les récoltes avec des ateliers de cuisine où les participants donc peuvent préparer ce qu'ils viennent de récolter dans la nature. Il y a cette dimension aussi dans les plantes sauvages, comestibles et médicinales, que ce soit un support aussi de convivialité, de retour à quelque chose qui est de l'ordre de la gourmandise partagée.
Oui, c'est vrai qu'il y a une alchimie qui arrive... qui me séduit toujours dans les stages de cuisine sauvage, c'est qu'au début de la journée, les gens ne se connaissent pas. Et puis au fur et à mesure, on découvre les plantes ensemble, on leur donne des noms, on les goûte, on les touche, on les sent. Et l'après-midi, viennent les ateliers de cuisine où les personnes se mettent par deux ou trois et choisissent une recette. Il y a un panel de recettes avec les ingrédients qui vont avec, le matériel. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une émulation, voilà, il y a une fourmilière qui se met en route et je trouve ça assez extraordinaire. Donc chacun y va de sa poêle, de son mixeur pour préparer le repas du soir. Et c'est vrai que quand on met tous les plats que l'on a préparés, d'abord c'est joli, il y a des couleurs, on met des pétales, et puis il y a une grande variété. Quand on met tout ça sur la table, vraiment on est satisfait, quoi. Tout le monde est satisfait, on a partagé des choses ensemble. Donc en tant qu'animatrice, c'est un outil d'animation qui est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. On partage le repas ensemble et après on n'a plus envie de se quitter.
Tu as des recettes favorites avec les plantes que l'on trouve en ce moment ?
Oui, alors y a une constante qui est le pesto d'ortie, parce que de l'ortie, on peut en trouver toute l'année, en fait. Si on la coupe, si on en a dans son jardin, parce que c'est très intéressant pour la biodiversité également de garder l'ortie dans son jardin, et bien si on la coupe, ça repousse. Donc on peut en avoir toute l'année. Donc on peut faire du pesto d'ortie quasi toute l'année, en fait. Il faut prendre les quatre feuilles jaunes là, du sommet, et puis apprendre à les cueillir sans se faire mal, c'est une technique très simple. Et voilà, ça c'est un pesto qu'on peut faire tout le temps. Mais voilà, quand on désherbe son jardin au printemps, qu'il y a de la stellaire qui pousse par exemple, on va faire aussi un pesto avec la stellaire, ou de la salade. L'ail des ours, c'est un classique de la cuisine sauvage, on va pas tarder à aller récolter l'ail des ours. Mais après, on peut aussi faire des tourtes aux herbes sauvages. Donc on va prendre beaucoup d'espèces différentes, on va les mélanger, on va mettre de la mauve pour le mucilage, pour remplacer par exemple les œufs. Le mucilage, donc c'est cette espèce de gélifiant qu'il y a dans les feuilles, qui va agglomérer les autres plantes ensemble. Voilà, alors des recettes préférées, j'en ai pas, parce que j'aime bien tester plein de recettes différentes et utiliser fleurs, feuilles, les fruits, bien sûr. Il y a un stage d'automne où on va cueillir des fruits sauvages qui étaient cueillis il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tout le monde allait ramasser les nèfles, les sorbes. Les azéroles, c'est un peu différent parce que je pense que quand même sur le littoral narbonnais, les gens ont encore l'habitude de ramasser les azéroles. Mais les sorbes, il y en a peu qui les connaissent, et les nèfles, je parle bien des nèfles de Mespilus germanica, les nèfles du néflier d'Allemagne, pas les nèfles d'Espagne, qui sont oranges et qu'on voit sur les marchés. ces nèfles sauvages, et tous ces petits fruits sauvages, ils sont absolument excellents, mais ils sont sauvages. Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas approcher comme ça. Donc il va falloir apprendre à les connaître, il va falloir les cueillir et s'armer de patience pendant au moins un mois, les laisser dans un panier, tranquille. Et il va y avoir une transformation des tanins à l'intérieur. Il va y avoir une alchimie qui va faire que le fruit va se ramollir. Et finalement, toutes ces substances un peu âcres qu'on a pu goûter si on a croqué dedans se transforment en sucre. Et on a véritablement des petites compotes à l'intérieur. Il suffit d'enlever la cicatrice de la fleur. Et on appuie dessus et on a de la compote dans la bouche, quoi. C'est vraiment excellent. Donc on fait avec des compotes, on peut même faire de la pâte de fruits, mais bon, c'est très sucré, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est une petite gourmandise sauvage.
Bon alors, on s'y met. Les associations pour lesquelles intervient Laurie proposent différents types d'ateliers et de stages pour tous les niveaux afin de découvrir, de cuisiner, de partager cette flore nourricière. Alors Laurie, c'est quoi les différents formats que tu proposes en ce moment ?
Je propose des stages pour plusieurs associations. Donc il y en a une qui est bien connue parce que c'est quand même une pionnière du zéro phyto, hein, des plantes sauvages en ville. C'est l'association L'Ortie. Qui a été créé par Moutsi Kless, qui a d'ailleurs écrit des livres indispensables pour aller faire la cueillette sauvage. C'est récolter les jeunes pousses. Et il se trouve qu'on a le même professeur de botanique, hein, Gérard Dussert. Donc avec L'Ortie, je propose ce qu'on appelle les matins sauvages. C'est un cycle de 6 sorties qui commence en février jusqu'à juillet. Et donc c'est un samedi par mois où le matin on fait une balade botanique de reconnaissance et l'après-midi on fait de la transformation. Donc sur les 6 samedis, on fait 2 ateliers de transformation cuisine sauvage. On en fait 2 en produits cosmétiques et 2 en produits de soins. Voilà, ça a démarré déjà le 12 février, il y en a une le 12 mars, et il y a le calendrier sur le site de L'Ortie. Et puis les stages de cuisine sauvage sont également proposés par l'association L'Ortie, il y en a un au printemps. Le prochain, c'est le 2 et 3 avril, et en général, le dernier week-end d'octobre pour les fruits sauvages.
C'est l'occasion, de découvrir la diversité de formations aussi hein, proposée par L'Ortie, qui est cette association historique du territoire qui est présente depuis plus de 20 ans, qui est notamment à l'origine de la fête des plantes de la Vallée du Fabi, et qui propose des animations, des stages, des ateliers, au-delà aussi des plantes médicinales et comestibles. Tu interviens aussi auprès des écoles, non ?
Oui, alors, donc j'ai moi-même créé une association qui s'appelle Herba Venti, avec laquelle je fais des projets scolaires autour de la biodiversité, quelquefois autour des plantes sauvages comestibles. On a fait des projets, par exemple, autour de l'ortie l'an dernier. Voilà, là, ce matin, j'étais dans une école pour travailler avec des maternelles sur les saisons. Donc on a regardé les bourgeons, on a terminé notre séance par un land art et par s'allonger dans la... par terre, sentir l'énergie de la terre, le soleil qui réchauffe, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est donc avec Herba Venti, et avec cette association-là, je propose aussi des sorties avec le département dans le cadre des espaces naturels sensibles. Donc on a la chance d'avoir un département qui investit un gros budget sur des actions de sensibilisation grand public sur les espaces naturels sensibles. Également sur les zones Natura 2000, je fais des sensibilisations sur la zone Natura 2000 bassin du Lampi, donc vers Cessac, ce sont des zones qui sont portées par l'agglo Carcassonne. Donc là je fais des sensibilisations scolaires et grand public, il y a des sorties gratuites, hein, donc comme les ENS sont gratuites aussi, tout au long de l'année, enfin on va dire plutôt de avril à mi-novembre à peu près. On peut trouver les catalogues dans les offices de tourisme ou dans les commerces, sinon sur le site du département.
On va regarder ça avec attention. Merci beaucoup Laurie Beaufis de nous avoir initié à ce monde fascinant et d'avoir rendu le paysage comestible.
Ben merci à toi Aurélien.
Bonne nouvelle, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée et présentée par Aurélien Kula. Merci à Devayani pour le générique et à Radio Balade pour la mise en onde. À bientôt et prenez soin de vous.